En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.
Tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors c'est donc cela, le christianisme, un éloge de la médiocrité. Ne visez pas trop haut, soyez juste médiocre et tout ira bien. N'ayez pas une bonne image de vous-même, dénigrez-vous et vous ferez plaisir au bon Dieu. Alors nous sentons bien qu'il y a un nœud ici, il y a un nœud qui vient d'une confusion entre, d'une part, orgueil et réelle dignité de l'homme, et d'autre part, entre vraie humilité et dénigrement de soi. Je voudrais lever ces confusions aujourd'hui pour comprendre comment être juste devant Dieu, et donc avoir part avec lui pour la vie éternelle. Je pense que peut-être qu'il faut commencer par rappeler ce que signifie être juste dans l'Écriture. Parce que d'instinct, quand on entend le mot justice, qu'est-ce qu'on se dit ? Ben, la justice, c'est la vertu par laquelle on rend à chacun ce à quoi il a droit. Et c'est une perception qui est très originelle de l'être humain. Le petit enfant, avant même de savoir reconnaître le bien du mal, a l'intuition du juste et de l'injuste. Il voit très bien si la part de gâteau qu'il a dans son assiette est plus grande ou moins grande que celle de son frère. Alors, il comprend en premier lieu cette justice commutative où chacun reçoit la même part, mais assez vite, il acquiert la finesse pour admettre ce qu'on appelle la justice distributive, où l'on tient compte de la différence des personnes. Ton grand frère est plus grand que toi, il a besoin de plus manger que toi, donc vous aurez chacun une part, mais sa part sera à la mesure de sa personne. Mais ça c'est vrai, cette notion générale de la justice, mais être juste dans l'Écriture va plus loin que cela. Dieu seul est juste, et pour l'homme, être juste consiste à avoir un cœur qui soit accordé au cœur de Dieu. Cela va donc au-delà de simples prescriptions à observer. On pourrait observer matériellement toutes les prescriptions données, et pourtant ne pas être juste parce que la disposition de notre cœur serait biaisée. C'est par peur, par exemple, ou par contrainte que j'accomplis tout cela, mais je n'y adhère aucunement. Pour vous donner un petit exemple, on respecte très bien les limitations de vitesse, non par souci du bien commun ou de la sécurité publique, mais souvent uniquement par peur du radar et de la contredanse qui s'en suivrait. Voilà. Matériellement, on a observé tout ce qu'il fallait, mais dans notre cœur, le souci du bien commun ou de la sécurité publique, il est absent. Être juste dans l'Écriture, c'est avoir ce cœur accordé au cœur de Dieu, en harmonie avec le cœur de Dieu, qui résonne à l'unisson du cœur de Dieu. Finalement, on pourrait dire qu'il pense comme Dieu, dont l'action de penser rejoint celle de Dieu. Et vous voyez que c'est très différent de celui qui, pour se dispenser de réfléchir, dirait « je pense comme toi ». un homme juste a fait cet effort de réfléchir. Alors cela étant dit, cette notion de la justice dans l'Écriture, un cœur accordé au cœur de Dieu, un cœur qui est capable de penser comme Dieu pense, en quoi ça va se distinguer de ce qu'on a vu, de l'attitude du pharisien ? Quel est le problème de l'attitude du pharisien de la parabole ? Vous voyez que ce n'est pas directement son agir, il fait plein de choses louables, il est pieux, il jeûne, il partage son bien selon les prescriptions de l'Alliance. Matériellement, c'est très bien, mais son action de grâce est étrange. Je relève ses paroles. « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Ce n'est pas une action de grâce pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas. Et pour ce qu'il n'est pas en particulier par rapport à ce qui l'entoure. En fait, il semble rendre grâce parce qu'il serait supérieur aux autres. En fait, tout se passe comme si c'était sa supériorité qui devait lui donner le droit de vivre, le droit d'être heureux. La valeur de sa vie apparaît conditionnée par le rapport qu'il a avec les autres, de supériorité ou d'infériorité. Avec une petite idée derrière, s'il n'était pas supérieur aux autres, meilleur que les autres, peut-être est-ce qu'il n'aurait pas le droit de vivre. Sa vie serait menacée, sa vie n'aurait pas de sens, sa dignité n'aurait rien de respectable. Vous voyez, ce pharisien perçoit la dignité de l'homme, non pas comme un absolu, mais comme relative à la compétition que les hommes se livrent entre eux. Et dans ce qu'il présente, seuls les meilleurs ont réellement le droit de vivre. Il faut donc toujours prouver que l'on est meilleur que les autres. Et c'est une question de vie ou de mort. Si l'on n'est pas meilleur, on sera éliminé. Certains font l'expérience de cela dans certaines pratiques de management. Dans certaines entreprises, le responsable doit noter ses collaborateurs. Il doit attribuer un certain nombre de notes A, de notes B, de notes C et de notes D. Et donc, il y aura toujours quelqu'un qui aura une note D, quel que soit le niveau de l'équipe. Parce que ce management considère qu'il faut toujours en éliminer un. Voilà, ça maintient la pression sur les autres et donc ils vont se dépasser. Et donc, quel que soit le niveau, il y en a toujours un qu'on dira « tu es inutile, va-t'en ». Et ça, ça nous conditionne à être dans cette idée que pour vivre, pour avoir ma place, il faut absolument que je sois meilleur que les autres. Si je ne suis pas meilleur que les autres, alors on risque de m'éliminer. Je n'ai plus le droit de vivre. Si Dieu raisonnait ainsi, le pharisien aurait raison de s'évaluer de manière compétitive. Cependant, Dieu ne fonctionne pas ainsi pour accorder son salut. Nul homme ne pouvait par lui-même mériter le salut. C'était matériellement impossible, non pas seulement à cause du péché, mais j'allais dire même à cause de notre nature de créature. Être sauvé, ça veut dire participer à la vie de Dieu. C'est la seule vie véritable, c'est la seule vie qui est toujours à toujours. Nous, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Aucune créature n'a la vie en elle-même. Elle a commencé à un moment, et donc sa puissance de vie est limitée. Pour participer à la vie divine, même sans l'obstacle du péché, nous avons besoin d'une élévation. Une élévation qui vient de Dieu, une élévation qui est gratuite. Et cette élévation, Dieu a voulu la proposer à tout homme, quel qu'il fût, affirmant ainsi la dignité inaliénable de tout être humain. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que tu as le droit de vivre. Ce n'est pas parce que tu cours plus vite que l'autre que tu as le droit de vivre. Ce n'est pas parce que tu as telle ou telle qualité que tu as le droit de vivre. Je t'ai appelé, moi, le Seigneur, à la vie, tel que tu es, et tu as une place dans mon royaume, et je t'ai offert le même appel au salut que j'ai offert peut-être à celui qui est très rapide ou très intelligent. Tu as la même dignité. Ce n'est pas la compétition qui me donnera un droit au salut. Le pharisien se trompe sur Dieu, se trompe sur lui-même et sur les autres. C'est un fruit subtil de l'orgueil qui nous fait croire que nous obtenons un droit sur Dieu, quitte presque finalement à lui dire « Seigneur, tu as vraiment de la chance de m'avoir parce que je suis vraiment mieux que les autres. » Et on pourrait même dire là-dedans « Oh, Seigneur, je comprends bien que j'ai eu ta grâce d'être si magnifique, mais maintenant j'ai plus besoin, ça y est, j'ai tout. » Et je sors de cette logique où j'ai pourtant toujours besoin de la grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus dit qu'il intercédera pour nous toujours devant son Père. même quand nous serons au paradis. Pourquoi ? Pour que nous demeurions dans cette vie divine. Parce que comme créature, nous n'avons pas la vie en nous. Et c'est ce que le publicain a compris. Mais il voit que la façon dont il vit, ça ne pouvait pas le mener bien loin. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Seigneur, montre-toi favorable, parce qu'il comprend qu'il a besoin de la faveur de Dieu pour vivre. Et nous, nous aurons aussi besoin toujours de cette faveur de Dieu, ne serait-ce que pour participer à l'ardeur de l'amour divin, sans être consumé par lui. Face à l'ardeur divin, j'allais dire, nous sommes un peu comme du papier, mettez du papier dans une flamme, il brûle un moment, mais il est consumé, il disparaît, alors que nous sommes appelés à tenir dans ce feu de l'amour divin. Et nous aurons toujours besoin que Dieu soit favorable, nous tienne, nous maintienne dans la vie. Alors si nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu, est-ce que ça veut dire que l'humilité qui implique la reconnaissance de la nécessité de la grâce empêche le désir de grandes choses? Eh bien, j'allais dire, réjouissez-vous, non. Parce qu'il y a une vraie différence entre l'orgueil et ce qu'on appelle la magnanimité. Le désir de faire des grandes choses. Magnanimité, ça vient de deux mots, magna anima, grande âme, grandeur d'âme. Et ça, c'est un vrai désir et un désir bon qui est dans notre cœur. Je ne veux pas faire du médiocre, je veux faire de belles choses. Ça nous vient directement de l'image de Dieu en nous. On a été fait pour être à l'image de Dieu en vue de sa ressemblance, et donc on n'est pas fait pour faire du médiocre. Même si on fait des petites choses, on est fait pour les faire avec la grandeur de l'amour de Dieu, avec la force de l'amour de Dieu, et ce n'est pas médiocre. Dieu nous appelle à cette magnanimité et à comprendre que nous la vivrons, nous les vivrons ces belles choses, mais dans la communion avec lui, par lui, avec lui et en lui. Tel est le lieu où nous allons nous épanouir, tel est le lieu où nous allons être féconds, par lui, avec lui et en lui, et pas à côté de lui, indépendamment de lui. Jésus avait dit cela, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais peut-être que c'est une chose qui peut encore nous inquiéter, nous dire « mais c'est un peu bizarre ». C'est une objection qu'on m'a faite un jour en me disant « mais ce Dieu qui veut qu'on ait toujours besoin de sa grâce, il ressemble un peu comme quelqu'un qui nous aurait mis comme des leucémiques qui n'ont plus de système immunitaire, qui ont besoin d'être toujours protégés. Alors Dieu nous ferait vivre dans une espèce de bulle où il nous donne sa grâce. » Mais la bulle stérile, c'est quand même très limité comme vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu ne nous met pas dans une bulle où il voudrait jouer le rôle d'un infirmier perpétuel. Dieu nous appelle, veut faire sa demeure en nous, pour que sa liberté devienne la nôtre, de l'intérieur. Non pas un petit parc où nous serions cloîtrés, mais que, parce que nous avons appris à vivre avec lui, à vivre en communion avec lui, sa propre liberté devient la nôtre. Et donc je peux aller partout, puisque j'ai la liberté de Dieu, puisque mon cœur, justement, et c'est là où la justice de Dieu revient, est accordé au cœur de Dieu. Je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi. Voilà que Dieu nous appelle vraiment à faire de grandes choses, mais en comprenant que c'est par lui, avec lui et en lui que nous pourrons les faire. Que le besoin de sa grâce, toujours, ne se comprend pas simplement comme un besoin parce que j'aurai un manque, mais il va se comprendre comme un besoin d'amour. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez qu'il soit avec vous, pas simplement parce qu'il va vous aider à déplacer la commode dans la cuisine, parce que vous avez un manque de force pour déplacer la commode, mais parce que vous l'aimez et que c'est un cri de l'amour. Sois avec moi, ta présence me réjouit et je veux te réjouir par ma présence. Et donc nous sommes ensemble, accordés par le lien de l'amour, pas par le lien du besoin de quelque chose à faire. Seigneur Jésus, en ce dimanche, donne-nous de comprendre que notre dignité est inaliénable, qu'elle ne vient pas par une compétition avec les autres. Donne-nous de comprendre aussi que ce désir de faire de grandes choses qui est en nous, ce désir de magnanimité est un bon désir qui s'accomplit avec ta grâce. Donne-nous de découvrir plus encore ton amour pour vivre toujours avec toi, d'un seul cœur, en harmonie, pour que ta liberté devienne la nôtre, pour que ton amour, pour que ta vie rayonne, batte au cœur même de notre vie. Amen.